I guess you're pogné pour le do it. I guess t'es pogné pour m'écouter now. On est pogné dans un two-way. Moi pis toi, right, j'suis premier en tout tes top.
What's up, folks? C'est François Lantier-Nadeau. Bienvenue sur Ça se passe, le podcast où on jase de croître un SaaS ou une carrière en SaaS au Québec. On est dispo sur Spotify, Apple Podcasts et les autres. Pas game d'aller vous abonner ou nous laisser un review. Ça serait smart, il nous faut des downloads pour les commandites, pour enfin payer Producer Ludo, le pro du bono, The Real Pussycat. On drop un épisode par semaine minimum, juste des discussions sans filtre avec des founders ou employés clés en SaaS. Si vous faites partie d'un SaaS québécois, allez sur saaspass.com, cliquez le bouton « Ajouter votre SaaS » pour être indexé dans notre répertoire. Le deuxième événement mensuel Ça se passe sera encore à Québec, mercredi le 21 juin au bureau de Novatez. On enregistre un live pod avec Ismaël Mesquine, cofondateur de Kimobi. On est encore limité côté place, donc allez sur Eventbrite ou sur notre site web pour réserver vos billets à l'avance. On a un nouveau segment commandité pour le pod, la job du mois Ça se passe. Et pour juin, la job du mois Ça se passe chez Dash 10, un cool SaaS de reporting pour marketing digital. Dash 10 sont à la recherche d'un spécialiste des ventes ou account executive. Ils ont un paquet de leads qualifiés à aller convertir. Donc, si vous ou une personne dans votre réseau avez le profil, cliquez sur le lien Job du mois dans les show notes ou allez sur saaspass.com/lajobdumois-. Vous y trouverez aussi une entrevue sur la culture de l'entreprise et la nature du poste avec Jean-Philippe Fortin-Quentin, qui est associé et directeur marketing chez Dash 10. OK, aujourd'hui sur le pod, je jase avec Antoine Bisson, co-founder et CTO chez Poca, un SaaS pour les travailleurs du secteur manufacturier. On discute de moderniser les processus d'usine, des enjeux de connectivité, de données puis de sécurité qu'ils ont vécu, de lever du financement, aussi de commencer avec un gros client, a.k.a. les biscuits Leclerc, mais de le transcender puis de scaler la compagnie beaucoup plus loin que ça, de construire une compagnie avec son meilleur ami, d'une approche bottom-up qui est axée sur les travailleurs et les utilisateurs en usine. Puis on partage un peu nos perspectives et cynisme sur lever une business bootstrapped ou financer. All right, on passe au show. Let's go! Antoine Bisson, bienvenue sur le podcast Ça se passe.
Merci, merci de m'avoir, merci, c'est gentil.
Ben oui, man, je suis vraiment stoked de te parler parce que j'ai été un peu un admirateur à distance de Poca là, depuis quelques années. Puis là, ben, j'ai la source de vérité directe. Fait qu'Antoine, tu nous fais-tu un genre de mini recap de t'es qui toi, genre ton parcours, ton skill set pour qu'on catch ton background?
Ouais, ben écoute. Dès le très jeune âge, j'ai toujours aimé les jeux vidéo. Ça a tout le temps été ma passion. Fait que très jeune, je m'étais dit que j'allais aller en informatique. Fait que j'ai commencé à vouloir aller à l'université justement en informatique à l'âge de comme 15-16 ans, même avant le cégep. En secondaire 3, c'était mon but. Fait que bref, j'étais allé étudier en Ontario à l'Université de Waterloo parce qu'il y avait un programme co-op. Fait que j'ai été accepté en génie logiciel. Fait que j'ai fait mon co-op, mon bac là-bas pendant 5 ans. C'était pas 4, c'était 5 à cause que c'est en Ontario. Ça a été 5 longues années, très pénible, je te dirais. Ça a vraiment pas été facile. Mais au moins, ça m'a permis de faire le co-op. Fait que dans le fond, j'ai fait beaucoup de stages à l'étranger et à Québec et à Montréal. All right. Et en février 2011... Alex Leclerc, mon ami d'enfance. Fait qu'Alex et moi, on se connaît depuis l'âge de 6 ans. Écoute, on est des frères. On dit tout le temps qu'on a un deuxième mariage, puis c'est entre lui et moi. Fait qu'Alex m'est arrivé avec l'idée de Poca en février 2011, pendant que j'étais chez Microsoft en stage. Moi, j'avais ma job dans l'ignée, continuer là-bas, faire beaucoup d'argent aux States, le American Dream, là, si on veut. Là. fait qu'écoute, Alex m'est arrivé, il est descendu pendant une fin de semaine, on a brainstormé la business, puis moi je prenais tout le côté tech, Alex prenait tout le côté business, puis c'est de là que Poca est né.
Fait que Poca, c'est en quoi? Rappel, c'est quoi? Ça, c'était quoi cette idée-là, genre?
Fait qu'en fait, Alex, bon, vient de la famille des biscuits Leclerc, fait qu'il y a eu... il travaillait, il dit tout le temps qu'il y a eu du child labor, là, un peu en joke. Là. Il est en usine depuis l'âge de 7-8 ans. Fait qu'il a vu beaucoup de problèmes. Il est pas rentré avec un poste de direction. Là. Quand il a commencé, il était opérateur sur les chiffres de nuit. Fait qu'il a tout fait l'échelle pour se rendre compte qu'il y avait beaucoup de problématiques liées à la formation puis à la communication en usine.
Okay.
Fait quand il est arrivé avec l'idée de POCA, c'était vraiment de moderniser les outils pour les opérateurs en usine.
Ouais.
Fait que ce que POCA est, c'est une plateforme mobile et aussi pour les ordi, là, mais beaucoup axée sur le mobile pour tout ce qui est la formation, communication, rétention du savoir pour les opérateurs dans le secteur manufacturier. Fait qu'on n'est pas une application pour des compagnies d'assurance, le domaine hospitalier ou whatever. Là. C'est vraiment pour les opérateurs dans le secteur manufacturier pour avoir un outil vraiment à l'air du temps. Là.
Puis, tu sais, je pense que... Tu dirais-tu que c'est fair de catégoriser POCA comme un SaaS verticalisé?
Oui, 100%, 100%. Puis nous, on a vraiment une verticale, c'est le manufacturier. Puis là, on est comme dans le segment là, que... Ça s'appelle le Connected Worker. Là. Fait que c'est vraiment comme un segment maintenant axé sur... de empowering les opérateurs du secteur manufacturier 100% vertical. Ouais.
Très cool, man. D'ailleurs, pour ceux qui écoutent le pod, là, on a parlé beaucoup de SaaS Verticals sur le pod avec Isaac Sewin de Penderfund. Vous irez checker ça. Écoute, tu te rappelles-tu la première fois qu'on s'est vu? Moi, j'ai le goût de la compter. On va voir si on a la même histoire.
Moi, dans ma tête, c'est au Tech Drinks, là.
Ah, boum, on a la même histoire.
Ah, c'est ça.
Je suis dire. Fait que shout-out à Jean-Marc Mercier, Olivier Rousseau, tous ces boys-là à l'époque qui organisaient les Tech Drinks. Hey, man, on parle de...
J'ai checké, c'était en 2015.
T'as checké? 2015?
Ouais.
Hey, man, ça faisait même pas...
C'était le dernier Tech Drinks de l'année au Cercle. C'était en 2015. Ouais. C'était comme décembre 2015, ouais.
Puis, aviez-vous déjà raisé à cette époque-là?
Ouais. Fait que dans le fond... Le Raising Story, c'est quand même une bonne histoire. Là. En fait, je vais mettre le nom de la personne qui nous a aidés. Là.
OK, vas-y.
Mais on avait un contact pour nous aider à raiser du cash dans le fond.
OK.
Je vais le dire le nom, ça me dérange pas en fait.
Ouais?
Ouais.
Pas de trouble, man, vas-y. Fait que vous aviez un contact qui vous a aidé.
Ouais, fait que dans le fond, quand on a voulu raiser du cash, Alex et moi, je me rappelle, j'étais sur le bord de la piscine chez mes parents, puis j'étais comme, on veut faire le vrai startup dream. Là. Fait que dans le temps, ils donnaient de l'argent comme de l'eau. Fait que Alex et moi, on s'était dit, let's go, on va chercher du capital Montréal, SF, tout. Fait que dans le temps, il y avait, en fait, Nick Darvaux-Garneau, qui était le chief AI chez Coveo.
Okay, ouais.
Qui est chez Coveo, mais qui était dans le temps chez Google, Nick.
Okay.
C'était le frère à un des VP chez Leclerc. Fait que il nous a dit, venez-vous-en les boys, à SF, je vais vous aider à lever du cash. Fait qu'on a levé du cash en septembre 2014. On a levé de l'argent à SF et finalement, on a pris la première ronde de financement de Innovia avec un autre fonds à SF, Uncork. Fait qu'on a levé notre premier 2.5 en...
US?
Non, CAD.
CAD?
Ouais, 2.5 CAD en décembre 2014. Puis les premiers employés sont rentrés en mars 2015. Fait que, ouais, quand on s'est rencontrés la première fois, on avait déjà levé 2.5. Ouais.
C'est ça. Puis je me disais... J'étais très naïf et très influençable par différents courants de pensée start-up. Puis bon, les 37 Signals, Basecamp, Bootstrap, All the Way, j'étais là... Bon, c'est qui les jeunes ticounes sell-out qui les... Dude, little did I know, vous avez bâti une calisse de belle business.
Ben merci, c'est gentil, mais tu vois, moi aussi avec le temps, tu sais, mon premier, quand j'étais jeune, j'étais comme, ah, Bootstrap, c'est de la marde, nanana. Mais,
ah ouais, ok, nice.
Tu sais, aujourd'hui, tu te rends compte que chaque modèle a ses pour et ses contre.
100%.
Puis, dépendamment du timing du marché, il y en a un qui est plus propice à un, puis pas à l'autre, là, 100%.
Tu sais aussi, genre, justement, là, comme ta pénétration de marché, là, est-ce que pour qu'elle soit successful, il te faut justement du cash, là, genre, des big guns? Puis, peut-être que la réponse, c'est oui. Puis, si la réponse, c'est oui, man, genre, il faut que tu raises.
Ouais, je pense que oui. Puis, ça dépend aussi, je pense, dans le marché, pas dans le marché, mais dans le segment que t'es. Là. Nous, on était dans un segment dans le temps qu'il était, il n'y avait rien. Là. C'était peu connu.
Non, vraiment, c'est ça. C'est comme obscur, là, genre.
T'sais, c'est ça. Là, puis, tu sais, c'était d'arriver le plus vite au marché, tout ce qui est marketing, tout ce qui était développeur. Fait que, tu sais, nous, c'était vraiment de flooder le plus vite le marché. Fait que c'est pour ça qu'il fallait du cash. Je pense que ouais. Ça aurait pu être possible. Il n'y a rien d'impossible, mais ça aurait été beaucoup plus difficile, je pense. Là.
Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est aussi, genre, parce que là, bon, je me prep un tout petit peu pour ces podcasts-là, mais... Je checkais ton CV, puis c'est comme intern, Microsoft, boom, co-founder, CTO. Ouais. La graine d'entrepreneuriat, as-tu toujours été là? Y a-tu fallu qu'Alex, justement, il te fasse un gros pitch? Ou...
Non, écoute, en fait, les deux, on a des familles assez entrepreneuriales, là, ouais. Que ce soit bon, du côté d'Alex et de ma famille. Là, mon père, il a tout le temps eu ses business.
OK.
Les sœurs à mon père aussi. Fait que, tu sais, j'ai tout le temps eu... tu sais, mon père m'avait tout le temps dit, quand on s'était passé en affaires, il m'avait dit, Antoine, tu vas voir, tu ne peux pas être fâché, tu ne peux qu'être déçu quand tu travailles pour toi-même, tu sais. Fait que c'était un peu difficile à gager parce que, tu sais, à la fin de la journée, t'es maître de ton propre sort. Mm-hmm. Mais ça m'avait tout le temps intéressé d'avoir ma business puis de voir, okay. Tu sais, c'était quoi. Fait que oui, mais tu sais, je pense qu'il y avait aussi l'âge un peu naïf, là. Tu sais, à 24 ans, tu dis, ouais, on va faire ça. Puis je pense qu'il y a beaucoup de naïveté qui a aidé à partir aussitôt en affaires, je pense.
Mais ça, dude, c'est un pattern que je vois, là, comme si tu voyais tous les paramètres puis tous les facteurs de risque de avant de starter une venture quelconque, en théorie, si t'étais genre 100% intelligent puis comme rationnel, tu le ferais pas.
Ben non, c'est sûr que non.
Fait qu'il y a comme... C'était... non, il y a des boys que je vois que je suis comme, man, ils sont tellement cowboys, puis... Il pense au upside, à quoi créer, puis comme le downside, il pense même pas. Fait que c'est ça que ça fait que ça marche.
Je pense que c'est la bonne mentalité, là, parce que si tu te remets tout le temps en question,
ça
si
bouge
pas. Non, ça bougera pas. Là. Non, c'est sûr.
Puis mettons, je sais pas là, à quel point il y a des chiffres qui sont publics ou pas, mais mettons juste un portrait numérique là, pour qu'on ait une idée. Poka, mettons, combien de cash raisé, combien d'employés, ce genre de truc que vous dites.
Oh, oui. En termes de cash, là, on a levé pour pas loin de, je dirais, là, parce qu'il y a tout le temps le US
à côté. Ah ouais. Ben, vas-y, ballpark.
Ouais, environ une cinquantaine, peut-être plus que 50 millions canadiens.
Okay.
Aujourd'hui, on est 140 employés, puis on frôle 20 millions de revenus.
Super. Ouais. Puis, c'est-tu un modèle pur SaaS, le revenue? Ouais, ouais. C'est des licences, mettons, des abonnements mensuels ou annuels? Ou...
Dans le fond, c'est tout, je te dirais peut-être pratiquement 96% de nos contrats sont annuels.
Ouais, c'est ça.
Mais tu sais, on marche avec le modèle per user. Là, fait que tu sais, c'est très SaaS, per okay. User. On le brand per month, là, mais tu sais, c'est 100% pratiquement annualisé. C'est pure SaaS, là, 100%.
Okay. Très cool, man. Puis, dans le fond, moi, ce que je trouve cool, c'est que... Écoute, là, tu me dis si je me trompe, mais genre, dans ma tête, manufacture, usine, il y a des trucs qui sont très mission critical là-dedans, genre. Tu sais, il y a des tâches qui sont faites, des rôles, des décisions que... Il y a comme un risque, un danger, un impact qu'il peut avoir dans la compagnie. Fait que votre SaaS arrive dans ces industries-là qui sont un... Sans vouloir offenser, qui sont dans une industrie un petit peu plus boring,
ouais.
Mais ça l'amène de la tech, ça l'amène du social dans une industrie qui est vieille, là, on s'entend.
Oh,
c'est
ouais.
Une industrie qui est genre, je sais pas comment ils organisaient le knowledge ou les connexions avant, mais ça a-tu été tough de comme commencer à cogner aux portes, faire genre, yo, il y a une meilleure manière de faire ça?
Ben, tu sais, en fait, moi, je vais tout le temps devoir, tu sais, Alex, il y a eu ça quand je parle de ça, là, mais tu vas tout le temps devoir à Alex de un, l'idée, là, c'est lui qui a eu l'idée de Poka, puis de mm-hmm. deux, le comment du pourquoi, parce que, tu sais, je veux dire, veux pas, ça faisait quoi, pratiquement 13 ans qu'il était en usine, 13-14 ans qu'il était en usine, fait qu'il okay. savait c'est quoi qui ne pouvait pas être fait, c'est quoi qui pouvait être fait, fait que, ouais. Tu sais, quand on a développé l'application, on savait c'était quoi nos limites, on savait qu'est-ce qu'on voulait faire et pas faire, puis on savait c'était quoi les barrières qu'il fallait mettre dans l'application pour justement respecter tout ce qui était santé, sécurité, tu sais, on va avoir des problèmes justement légaux par rapport à ça, etc. Fait que tu sais, il y a plein de gates, là, si on veut, dans l'application qui font en sorte qu'on respecte ces aspects-là
okay.
et que l'employé a accès à une formation qui est adéquate à lui. Fait que ça, mettons, je te donne un exemple.
Ouais, vas-y.
T'es un opérateur, mettons, pâtissier. Okay? Mm-hmm. Fait que toi, un pâtissier, en théorie, tu es supposé d'avoir un set de compétences X. Puis pour acquérir ce set de compétences-là, tu as besoin de savoir X, Y, Z. Mettons.
Okay.
Fait que pour quoi, on va s'occuper de toutes tes compétences, on va s'occuper de toute ta formation par rapport à ça. Fait que, tu sais, nous, on digitalise toute la formation. Fait qu'avant, c'était tout sur papier. Maintenant, c'est tout format vidéo, image dans POCA. Mais, tu sais, il y a tout un processus d'approbation qui se doit d'être fait pour que l'instruction de travail pour l'opérateur soit approuvée. Fait que,
okay.
Elle va être approuvée par le département légal, le département RH, santé, sécurité, etc. Fait qu'on suit le même process. On permet à tout le monde d'avoir le même process qu'il y avait avant papier, mais maintenant, sur un format digital qui respecte tout ça. Tu sais, veut pas, peut-être qu'on va en parler plus tard, là, mais tu sais, on a eu l'idée, on l'a bâti tout le temps avec l'idée de pas juste avoir un client qui est le clair, mais c'était de vraiment avoir le spectre complet du secteur manufacturier. Tu sais, fait qu'il y a des choses qu'on savait qui étaient faites d'une telle façon, mais nous, on l'a tout le temps adapté plus en sachant qu'on voulait avoir
le généraliser
un plus pour le secteur manufacturier, exactement. Là.
Mais j'ai le goût de savoir, mettons, là, je vais compter une histoire fictive, puis tu me dis si c'est arrivé ou pas. Y a-tu des, mettons, un Gaston que ça fait 30 ans qu'il est dans l'usine, puis comme que lui, les cartables papier, c'est all good, puis t'arrives, toi, avec ton beau Polar Patagonia, puis t'es comme, hey, nous allons révolutionner les travailleurs connectés, genre maintenant tout va se passer sur telle tablette, puis genre c'est un beau interface, non, 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 non. Y a-tu de la résistance au changement, mettons, soit up high dans le management ou plus dans la force de travail des opérateurs, genre?
Je te dirais que, ouais, dans le fond, Gaston, le fictif, fictif Gaston, souvent le pushback qu'on avait était plus par rapport au fait de Gaston, en fait, lui, il veut juste pas que ce soit contribuer au cartable ou à POCA. Gaston, c'est comme, moi, je veux te former, mettons, en peer. Là, fait que,
ouais.
Regarde-moi, je vais te montrer comment ça marche, puis t'es mieux d'apprendre en 15 minutes, sinon, ciao, bye. Là, fait que Gaston, souvent, la résistance au changement, c'était juste, moi, je fais mes affaires, je fais ma job, puis je veux que ça soit fait comme ça. Fait que nous, dans le fond, l'idée de POCA, c'était de capturer le meilleur savoir d'une usine puis de le partager à travers des autres usines. Fait que nous, le rêve, c'est qu'on puisse permettre à la compagnie de capturer le savoir de Gaston, parce que Gaston, il va s'en aller à la retraite dans 3-4 ans.
C'est comme documenter son code.
Fait
genre,
fait, dans le fond, c'est la façon de l'amener à Gaston, c'est de lui dire, tu sais, Gaston, dans 5 ans, quand tu vas plus être là, il faut que l'usine continue de marcher, puis tu as été la meilleure personne à l'opérer. Tu sais, fait qu'il faut que tu nous aides à capturer ça. Fait tranquillement, pas vite. T'sais, c'était way, way back. Là. Puis là, on arrivait vraiment. Là, puis là, il fallait qu'on fasse. On aidait nos clients à pitcher ça aux opérateurs. Puis tout, parce que justement, il faut que tu prennes ton iPad. Tu filmes Gaston qui explique comment partir la machine. Parce que c'est le seul qui est capable de le faire comme du monde. Là, puis
incroyable.
Que ce soit dans des petites PME ou dans nos plus gros clients, ce problème-là, il existe. Là. Il existe encore. Là. C'est malade. Là. C'est fou. Là.
Le transfert de connaissances.
Exactement. Puis, tu sais, de dire que tu as le savoir qui repose sur deux personnes, là, sur une ligne qui fait comme 25 millions de revenus par année, là, c'est encore.
Parle-moi de dépendance.
Fait que, tu sais, c'est ça. Fait que nous, c'est comme ça qu'on l'amenait. Puis, tu sais, peu à peu, tu sais, ça a commencé. Mais, tu sais, nous, là, je pense qu'on était tellement early dans les usines que notre plus gros cheval de bataille au début, c'était le Wi-Fi. Là. C'était même pas...
Tell me more, ça m'intéresse.
C'était même pas le réfractaire au changement avec des iPads ou du plancher. Là. C'était comme notre plus gros...
Le réseau.
Ouais, il y avait juste pas de Wi-Fi dans les usines. Là. Fait que nous autres, là, on travaillait des fois, on avait regardé pour faire un partenariat avec Cisco.
Ouais.
Pour dire, OK, ben on va arriver avec une solution en même temps. On va arriver avec des noms pour dire, on rend votre Wi-Fi. Écoute, on était dans des places, là, puis il y avait juste du Wi-Fi dans les bureaux. Puis quand t'arrivais sur le plancher, il n'y avait rien, là. Fait que, tu sais, nous, on avait failli faire un mode offline. Puis là, j'étais comme...
Il y en a-tu un?
Non, il n'y en a pas.
OK, tout est connecté tout le temps.
Tout est tout le temps connecté. Puis une des raisons, c'est que... En fait, il y a beaucoup de... Tu sais, le fameux secret de la caramine, là, tu sais, ça reste quand même ça que... il y a dans notre application. Fait que, tu sais, je veux dire, mettons, un de nos clients, c'est Mars. Ben, tu sais, moi, j'ai visité l'usine de Mars, mais tu sais, j'ai vu des lignes où que tu vois juste des centaines de milliers de mini Bounty ou des mini Mars.
J'ai faim.
Tu sais, tu vois tout ça, là. Puis, tu sais, c'est vraiment des secrets industriels. Là. Fait que tout ça est dans l'application. Fait que, tu sais, nous, le fait que ça soit connecté en permanence,
ça fait
en sorte que pas personne peut prendre un iPad puis aller chez un compétiteur puis dire « Ah, voici comment on fait la Bounty ou la Mars. »
Pourquoi est-ce que je comprends pas?
Dans le fond, le fait que ça soit tout le temps connecté puis dans le fond, toutes les usines sont toutes accéder à l'instance de Mars ou, le pot commerce, il faut que tu sois sur tel range d'adresse.
On-prem.
Exactement. Fait que, tu sais, on met des sécurités comme ça, ce qui fait que si l'iPad est déconnecté du réseau local de un, il n'y a plus accès à Poca. Mais l'autre idée, c'était de dire, ben là, s'il y a un mode offline, ça veut dire qu'il pourrait downloader des vidéos
et partir
avec l'iPad. T'sais. Fait que ça, c'est notre aspect de sécurité aussi. Puis, tu sais, aujourd'hui, le tournant Internet est arrivé en usine. Fait que là, c'est vraiment...
Plus facile.
C'est plus facile, mais c'est très intense. Là, c'est vraiment...
Qu'est-ce qui est intense?
Côté toute la sécurité de l'accès à l'information, là, si on veut. Là, tu sais... On pourrait en parler en long et en large, là, mais tu sais, il y a l'espèce de fameux retour to on-prem.
Les gars qui m'ont vu ont commencé à me parler de ça.
Il y a tellement de data, on a peur que le data se fasse voler, etc., etc.
Le cloud exit.
Ouais, c'est ça, tu sais, là où, tu sais, un mode hybride un peu. Fait que, tu sais, on se fait pas vérifier, là, mais tu sais, la sécurité des données, les accès aux données, ça fait encore plus serrer la vis. Là. Fait que,
wow.
on suit le beat, là, mais c'est intéressant le shift qu'on a vu au cours des dernières années.
Ouais, parce que c'est 9, 10, c'est combien d'années au total?
Bon, fait que moi, j'ai commencé à développer Poca officiellement là, quand j'ai gradué en mai 2013. Fait que j'ai développé la première version de mai 2013.
C'est pareil comme Snip, man, le timeline.
Septembre 2014. Mm-hmm. Fait que j'ai fait application web, application iOS, back-end, puis cloud.
Tu codes ça encore, man?
J'ai codé récemment pour de quoi, pour le fun, là, mais tu sais, non.
T'aimes encore ça coder?
Oh, oui.
Ouais.
Mais je me suis jamais... Quand je suis rentré dans mon bac, c'était pas pour devenir un codeur, c'était pour devenir un... comme un gestionnaire dans le monde informatique. Là. Mon rêve, c'était de travailler chez EA et chez Ubi en tant que gestionnaire de jeux vidéo. Là.
Ouais.
J'ai codé pendant un an et demi, un an. Puis Alex, lui, il testait la app sur le plancher. Il m'envoyait des listes de bugs. Là. Ça a été une première année. Là, je voyais ses emails rentrer puis ça ne me tentait pas. Mais ouais, fait que ça a été la première année de code.
D'autres, j'ai quelque chose que je veux toucher, c'est travailler puis partner up avec des chums, avec des amis.
Ouais.
Moi, c'était pas mes amis, les gars de Spectrum et Snipcard au départ, ça l'est devenu.
Ouais.
Puis aujourd'hui, mettons, si jamais à me starter de quoi d'autre que ça se passe, pas mal sûr que je le ferais avec des amis. Toi, vous étiez amis avant, puis là, vous êtes arrivé dans quelque chose de, tu sais, pour être cliché, le rocket ship, ça allait vite, ça brassait, des affaires qui pétaient. Ouais. Ça a été tough pour votre amitié, mettons?
Il y a eu des années plus difficiles, puis tu sais, Alex et moi, écoute, on est plus proches qu'on l'a jamais été. Tu sais, je suis parrain de sa nouvelle fille.
Nice.
Tu sais, hier soir, j'étais là, j'ai aidé avec les enfants. Puis tu sais, fait que, tu sais, selon moi, c'est make or break. Là.
Okay.
Beaucoup que je montre, que je connais, puis tu sais, tous les investisseurs, c'est un peu ça la joke. Là, c'est que, tu sais, on est encore amis, Alex et moi, là, parce que beaucoup de monde que je connais qui se partent en business avec des amis, ça marche pas. Je pense que la clé, c'est comme une relation amoureuse. Là. C'est la communication. Faut que s'il y a de quoi qui marche pas, tu te couches pas fâché. il faut que tu mettes ton ego de côté. C'est très évolutif. Puis, tu sais, on est rentré dans le business ensemble 50-50. Puis, on s'était dit, si un point de discorde, on peut pas en avoir.
Faut s'entendre.
Puis.
Aviez-vous des close shotguns puis ce genre de trucs-là?
Non, parce que la joke, c'était que ça allait être trop facile pour lui, là, mais. c'est ça, puis ça, on en rit, là. Mais non, écoute, là-dessus, c'était bien fair. C'était comme, écoute, il faut qu'on trouve un compromis si ça marche pas, tu sais.
Fuck yeah.
Il y a eu des années plus difficiles, là, tu sais. Là, aujourd'hui, ça va bien, puis je pense que l'important, c'est de communiquer. Fait que, tu t'apprends à te connaître d'autant plus, puis je le dis, c'est make or break, là, si...
C'est... Ouais. comment tu fais pour rendre quelque chose de qui peut sembler en surface peut-être boring ou ennuyeux, mettons l'usine, la manufacture, intéressant pour du staff, pour des employés? Tu sais, pour, on s'entend, là, c'est pas genre Web 3, genre économie circulaire, green, je sais pas, tu sais, il y a plein de facteurs sexy que c'est pas nécessairement là dans Boca, mais comment vous faites pour attirer du monde, genre au début, mettons, aujourd'hui, clairement, vous avez une business établie, puis comme, whatever, là. Mais ouais, ça m'intéresse, ce côté-là.
Ben, il y a deux aspects. Mettons, il y a l'aspect client, d'aller chercher le client, puis lui dire, t'as besoin de Boca. Puis le deux, c'est une fois qu'on a landé le client, une fois qu'on a acquis le client. Ouais. Comment on fait pour que les opérateurs, ça marche, ou du moins faire de quoi qui intéresse les opérateurs. Je vais essayer de faire une réponse un peu pêle-mêle. Ça risque d'être pêle-mêle, mais dans le fond, nous, on a tout le temps eu l'objectif de faire une application pour les opérateurs.
Mm-hmm.
Fait que c'était de trouver une façon pour eux que, quand ils font de quoi dans Boca, c'est valorisant et que ça aide leurs confrères. Fait que, t'sais, on a une notion d'un peu un fil d'actualité, un factory fee, là, si on veut.
Ouais.
Dans le fond, le but de ça, c'est qu'il y ait une voix, ce qu'il n'avait pas avant. Là. Avant, c'était très top-down, là, c'est bottom-up. Fait que l'idée, c'est que l'opérateur dise qu'est-ce qui se passe dans sa vie de tous les jours, c'est quoi les problématiques, c'est quoi les bons coups, comment il peut faciliter le travail des autres, etc., etc. Fait que c'est d'amener un outil qui va être valorisant, facile à utiliser, qui est vraiment axé sur eux et juste eux. Parce que les outils en usine sont très axés sur profitabilité, management, efficiency, etc. Tandis qu'il n'y avait rien pour
le social,
puis axé sur eux en soi. Fait que c'est comme ça qu'on l'a amené. Puis je te cacherai pas là, tout ce qui est interface, UI, UX, on va vraiment le plus friendly possible, quitte à des fois allonger le haha moment, là, t'sais, fait que, t'sais, parce que t'sais, on veut pas trop de complexité, on veut que ça soit friendly, puis tout. Fait que t'sais, ça a été très itératif aussi, là, t'sais, au départ, ça a été très, très, très de base, là, on s'entend, mais t'sais, avec le temps, on rajoute beaucoup de fonctionnalités, beaucoup de complexité, mais c'est un catch-22, là, à essayer de trouver le sweet spot, là. Oh, ouais.
Puis, c'est malade d'autre, ça. J'adore le truc bottoms up, là, tu sais, puis de valoriser la personne. Puis, I guess que n'importe quel bon gestionnaire en usine, en manufacture, va être comme fuck yeah, tu sais. Genre, ça me tente que ce monde-là soit craqué, soit motivé, se sente genre écouté.
Ben, c'est sûr. Puis, c'est ça qui manquait. Tu sais, on dit tout le temps que là, il y a un segment, là, tu sais, le segment Connected Worker résout un problème ou, du moins, adresse un problème qu'il n'y avait pas dans le temps, tu sais. Puis, clairement, il y avait un manquement à ça, là, vraiment à enabler l'opérateur puis lui donner un outil pour lui.
Puis ce que je trouve drôle, c'est que je connais une couple de joueurs là, chez vous. Là.
Ouais.
Fait que mettons Sébastien Sion, Richard Doyle, Greg Bredenbach, je ne sais jamais comment dire son nom. Pete.
Ouais.
Pierre-Luc. J'ai vu des photos d'eux autres habillés de la tête aux pieds avec des genres de soutes puis de casques.
Il était en usine,
Il était en usine, donc. Fait que là, premièrement, juste voir des amis, tu sais, de même, j'étais crampé raide. Mais parle-moi de ça, genre, vous faites passer le staff par, mettons, un séjour en usine. C'est quoi le setup?
Ben, moins qu'on le voudrait.
OK, intéressant.
Ouais, c'est difficile parce que puis ils t'en parleront, les gars, là, tu vas voir. C'est difficile parce qu'il ne faut pas oublier qu'une ligne de prod, ça roule. Puis nous, dans le fond, tu sais, le coût à la défaillance est très élevé. Okay?
Fait que
on envoie faire des interviews, si on envoie le monde comme observer tout ça, c'est une chose. Chacun est différent, mais tu sais, c'est difficile de trouver un client qui va nous dire « Oui, amène tes gars pendant une journée, puis ils vont... ils vont observer. »
Gaston va peut-être être en crise.
Gaston va pas être content, je te le garantis. T'sais. Fait que c'est très difficile. Quand on est capable de le faire, on le fait. Mais t'sais, c'est vraiment, vraiment difficile parce qu'il faut pas que... La minute que, mettons, la ligne arrête de rouler, t'sais, ça représente, je sais pas moi, une minute. Chez Mars, là, c'est peut-être un downtime de une heure, c'est comme 5-10 millions. Là. Fait que, t'sais,
Jesus,
c'est vraiment, vraiment difficile. Fait qu'on essaye de le faire. parce que justement, c'est une réalité qu'on connaît pas. Là. Moi, quand Alex il m'amenait dans l'usine au début à 5 heures du matin, je la trouvais pas drôle. Comme...
Mais, c'est une... mais lui, il a grandi là-dedans.
Ouais, il a grandi là-dedans, là, il discutait une petite nature. Là, mais c'est vraiment difficile à conceptualiser. Fait que c'est là qu'on essaye d'amener... on essaye, là, je te cacherai pas, je voudrais qu'on le fasse plus, mais d'amener le monde puis de connaître la réalité. Puis...
Sur le terrain, là.
Sur le terrain.
Comment ton staff répond à ça? C'est-tu comme un devoir, un to-do que je suis obligé de faire ou c'est comme fuck yeah, tu sais, je vais me craquer ça?
Ah, mais tu vois, les gars, eux, si je me trompe pas, la dernière fois qu'ils sont allés, c'est eux qui le demandaient. Là, fait que,
nice.
Autant qu'il y en a qu'aujourd'hui, ils sont plus avec nous, mais qu'ils n'aimaient pas ça. c'est sûr que c'est pas. C'est une audience que il faut que tu sois passionné. Moi, ce qui me fait capoter, c'est que je m'en vais en épicerie puis je regarde.
C'est
comme. 80% des produits qui sont là, on a aidé à les faire. Là. Pour moi, c'est ça, je trouve ça malade. Mais c'est des secteurs qui intéressent du monde où il y a des employés qui capotent. Il y en a que je sais qui sont indifférents, puis je sais qu'il y en a qui sont partis, puis que c'était vraiment pas leur passion. Fait que c'est important ça. Là. Mais
comment vous, côté genre marque employeur ou culture attirer du talent chez Poca, vous marketez beaucoup, je pense, la sophistication, le côté sophistiqué de ce que vous avez construit. Tu sais, c'est un produit, un SaaS vraiment moderne, vraiment cool, qui révolutionne quelque chose de plus classique, plus traditionnel. Mais vous pesez pas au fond, Léon, sur le piton de l'industrie, genre, right? Vous êtes pas comme « viens triper en manufacture », genre.
Non, puis en fait... peut-être qu'on devrait le faire.
C'est intéressant.
Peut-être qu'on devrait le faire. Mais moi, on y va plus sur l'axe de dire que justement, on est une business de tech dans un domaine qui est plus perçu comme, appelons-le un peu plus comme vieux jeu slash dinosaure, là, les vieilles business de ce monde qui sont encore présentes. Là. Fait que tu sais, nous, admettons qu'on parle un cloud engineer, ben tu sais, on est comme, ben, tu sais, chez Poca, on est AWS, mais tu sais... Tout ce qui est bleeding edge, on l'a, tu sais, tout ce qui est serverless, lambda, name it, tu sais, nous, c'est comme, on est tout le temps à l'affût, fait embarque dans un rocket ship, puis que tu es dans une espèce de vieux secteur, entre guillemets, là, mais tu sais, nous, c'est, on amène toutes des vieilles techno dans un domaine qui a tout le temps été un peu plus reculé, puis aide nous à moderniser ça, puis de, tu sais, dans le fond, les compagnies qui nous achètent, c'est parce qu'ils ont pas de solution, là. Ils n'ont rien. Là. Fait que ce qui est malade, c'est que quand on va pitcher à des nouveaux clients, on ne vient pas remplacer, mettons, tu ne remplaces pas, je sais pas moi, tu fais pas un switch de Gmail, de Outlook à Gmail ou vice-versa. Là, nous, c'est qu'ils n'ont rien. Ou ils ont des cartables de formation. Fait que nous, c'est vraiment dire, OK, ben voici ce que tu as besoin. Là. Fait que c'est un autre mindset de vente,
Mais dis-moi, parce que là, vous avez prouvé le modèle, là, d'autres. Ça fait 10 ans, la compagnie continue de croître, tout ça, vous avez plein de clients.
Ça n'a pas tout le temps été facile au début.
Non. Non, mais c'est podcast, dans le fond, tu peux juste dire que tout a bien été. Mais no shit, je suis comme un peu... Vous avez prouvé le modèle, clairement que ça a dû ouvrir les yeux de d'autres entrepreneurs. Ça a-tu fait émerger de la compétition?
Oui, 100%. Écoute...
Parce que là, c'est pas juste le cartable alternatif, ça peut être d'autres choses.
Exactement, okay. Aujourd'hui, admettons, là, les fameux... je sais pas c'est quoi en français, un RFP, là...
Request for Proposal.
Ouais, exactement, ouais, je pense que c'est ça. L'autre fois, on a eu...
Je l'ai juste dit en anglais. je sais pas c'est quoi en français,
Mais tu sais, admettons, on a gagné un client récemment, puis... T'sais, il a amené un peu la notion... moi, je savais pas que ça se faisait. Là, dans le fond, il invite tous des vendors.
Ouais.
Puis là, tout le monde pitch. Puis là, tout le monde remplit le RFP. Mais tu sais, pour notre type de solution Connected Worker, fait qu'on voyait tous nos compétiteurs. Puis tu sais, tout le monde pitch. Tout le monde répond. Tout le monde a ses forces et ses faiblesses. Puis
tout le monde signe un NDA, quelque chose? Genre, je comprends.
Non. C'était comme vraiment... Moi, j'ai vu des photos. Je n'étais pas là, mais c'était comme pratiquement un centre de conférence là, où que tout le monde avait son espèce de boat là, chez le client. Puis le client, lui, avait son staff, son management qui faisait le tour de chaque. Puis qu'il y avait des présentations. Puis c'est vraiment...
Genre, les chevaliers, ils font des tournois pour gagner la main de la princesse.
C'est un mix, là, tu sais. Je sais qu'on va en parler tantôt, là, mais c'est un mix de vente de quoi? De ultra-moderne dans un milieu aussi que, tu sais, on fait des roadshows, on fait des déjeuners, conférences, tu sais, quelque chose que, toi puis moi, quand on achète un SaaS, on ne s'attend pas à se faire payer un café pour choisir anti-Slack puis Teams. Là,
non.
Fait que c'est de jongler avec ces deux réalités-là qui est intéressante. Puis,
Ça nous amène dans l'acquisition parce que dans le fond, tout ce que tu es en train de dire là il y a beaucoup de relationnel, de business development. Fait que moi, je suis trop curieux. Genre, l'acquisition, mettons que tu la maps en vente, marketing inbound, marketing outbound. Si tu avais à faire un split là-dedans ou même autre chose que j'ai oublié, ça ressemble à quoi, genre?
Je dirais que notre meilleur vendeur, c'est nos clients existants et ou ceux qui changent de place. Fait que, tu sais, mettons...
Ouais, fait du referral.
Du referral, là, pas mal. Là, ça, c'est vraiment... Tu sais, écoute, on a eu Danone à Boucherville quand même assez early on. Puis Danone, Boucherville, il y avait le gars qui renait Boucherville. Il nous avait amené une présentation chez Evian. Parce que, dans le fond, Danone, c'est eux qui ont aussi les bouteilles d'eau Evian.
OK.
Fait qu'on est allé à une présentation chez Evian. Puis au même moment, son ami qui travaillait chez Mars était à Evian.
Okay.
Puis là, il est comme allé la voir. Puis là, on l'a rencontré elle. Puis là, après ça, on a eu un autre meeting avec son boss. Puis là, après ça, on a eu Mars. Fait que tu sais, le referral reste le meilleur vendeur. Je pense que, en tout cas, dans n'importe quel business, ça reste le best. Mais vu que c'est un secteur qui est assez au top dans le secteur manufacturier.
Ouais.
Le monde va changer de place, puis ça reste tout le temps dans des grosses business. Fait que ça nous aide énormément parce qu'on suit ces personnes-là pas mal. Le split entre inbound, outbound, marketing, je te dirais, écoute, ma VP marketing serait peut-être pas contente, je le sache pas à 100%. Là. Peut-être c'est un... Je dirais pas 50-50, mais pas loin.
Okay. Tu sais, on essaie investir dans les deux.
Ouais, on investit. Puis on essaie aussi de faire beaucoup du... soit du account base ou vraiment comme, des... tu sais, comme là, mettons, récemment, on a signé... je sais pas si je peux dire le nom, fait que je vais dire... Un des plus gros clients dans le pneu au monde.
Parfait.
Fait que là, on bâtit, puis on a signé un deuxième. Fait que là, on essaie de bâtir un gros story sur Poca et l'industrie du pneu, mettons.
Ouais, ouais, ouais.
Puis là, après ça, tu sais, ça va passer. Fait que ça, c'est beaucoup des... C'est beaucoup des plays qu'on fait.
Account-based marketing, là, pour le monde qui écoute, c'est basically de... spotter un compte spécifique, un gros client spécifique que tu voudrais avoir ou un type de gros client spécifique que tu veux avoir, puis ensuite structurer du démarchage, de la création de contenu, du outreach vraiment pour ce compte-là. Fait que ça marche jusqu'à quand c'est du high ARPU. Fait que average revenue per user va être super gros.
Ouais.
Ça va être un gros client qui va bouger l'aiguille pour ta business. Juste une petite phase d'éducation, une petite parenthèse d'éducation. C'est vraiment sick, man. J'ai le goût de parler de Leclerc, quote-unquote Leclerc. D'ailleurs, j'ai mangé des biscuits Leclerc récemment. Shout-out, toujours aussi excellent.
Excellent.
Une valeur sûre.
C'est ce qu'il faut.
Si jamais vous voulez commanditer le podcast. Pas sûr que c'est bon pour mon taux de sucre. Écoute, man, moi, plus jeune, avec du cynisme, j'aurais peut-être dit, ben là, tu sais... Ils ont comme un unfair advantage, ils sont déjà pluggés dans des usines et la manufacture.
Ouais.
Aujourd'hui, je trouve juste ça, j'ai maturé, puis je trouve juste ça smart de capitaliser ces opportunités et les avantages que tu as. C'est ça que les bons entrepreneurs font.
C'est vrai, il y avait quelqu'un qui avait écrit un blog post sur ça. écoute, moi, je l'ai tout le temps dit que quand tu te pars en business, il te faut un premier client. Ça, c'est... coûte que coûte, que ce soit ce client-là, ce soit toi-même ou que ce soit quelqu'un que tu connaisses. Fait qu'admettons, toi, tu as un problème, mais tu trouves que ta peau est sèche quand tu te laves dans la douche.
T'as remarqué?
Fait que, admettons, toi, tu vas dire, bon, ben moi, mon premier client, c'est moi-même. Mon problème, c'est ça.
Dog fooding,
fait que toi, tu vas développer ton savon qui va faire que ta peau est douce. Fait que ça, c'est ton premier client. T'sais, c'est toi-même que tu as un problème. Nous, dans notre cas, c'était Biscuit Leclerc.
Clairement, ouais.
Puis tu sais, je veux dire, après ça, il faut quand même que tu te délivres. Puis ça, c'est la partie, je pense, que le monde oublie, puis peut-être dans ton jeune cynisme, c'est que t'as beau avoir un premier client.
Faut que tu ships.
Tu sais, après ça, il faut que tu ships, là. Il faut que tu le fasses, que ça marche. Il faut que tu aies d'autres clients. Il faut que tu scales la business, tu sais. Fait que, est-ce que, tu sais, oui. on a eu l'avantage d'avoir la plus grosse compagnie de biscuits au Canada, puis Alex me dirait peut-être en Amérique. Je pense que oui aussi, d'ailleurs, maintenant, aujourd'hui. Fait que, tu sais, oui, c'est un avantage qu'on avait d'avoir ce premier client-là, de développer une business avec lui, puis d'avoir le bêta. Mais après ça, reste-t-il que ça, c'était le développement, puis notre premier client. Mais après ça, je veux dire...
Ben, l'exécution d'eau, le go-to-market. C'est
ça. Là. Puis je peux dire que quand j'ai un investisseur qui a planté 25 millions dans la dernière round, t'sais, lui, c'était pas comme ah, ben oui, vous avez. T'sais, non, non, c'est comme c'est quoi? C'est ça, là, combien tu vas me faire 100 millions d'AR? Puis, ouais. T'sais, je veux dire, à un moment donné. Fait que, t'sais, je comprends.
Ça transcende ça. Je comprends.
T'sais, je comprends qu'au début, ça kickstart, mais il te faut un kickstart à quelque part, sinon.
Mais, t'sais, man, ce que t'as dit, ça m'a comme marqué. Là, t'as dit, t'sais, il te faut un premier client, puis la réalité, c'est que la majorité du monde en ont un premier client, puis celle-là, le même type d'unfair advantage. Juste que. Fucking biscuit Leclerc, c'est tellement genre, tellement incrusté dans le psyché collectif du monde. Ouais. C'est tellement une belle grosse business depuis longtemps que t'as l'impression que c'est comme plus un avantage au départ. Mais au final, c'est tout des gros ben, clients de même que tu vas aller chercher. T'sais.
L'avantage qu'on a, c'est que c'était comme un client vraiment, excuse-moi, là, le Québécois, vraiment, ça accouche. Là. C'est ouais. sûr que l'avantage, c'est ça. Là. C'était pas une.
C'est pas scrappy. Là,
ouais. C'est ça, c'est pas une bénérie. Là. Fait que, l'avantage, c'est d'avoir le client le plus ça accouche possible. Bénérie, mais après ça, il faut quand même que le poste. Itération bêta, c'est un autre game. Là.
Mais tu sais, avec Snip, là, Spectrum, eux, ils avaient le besoin de Snip. Après ça, il y avait des agences super proches qui ont accepté d'utiliser Snip full vite. Fait que tu sais, même genre de dynamique, où est-ce que tu as déjà ces avantages-là? Puis c'est juste smart de capitaliser sur ces choses.
Puis il y a quelque chose qu'il ne faut pas que le monde oublie. Tu sais, ça. La difficulté aussi quand tu as un premier client, c'est de dire non à ce premier client-là.
Ouais, 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 pour pas que ça devienne hyper spécifique. Là.
C'est
ouais.
ça, là. Fait que, tu sais, on a eu des discussions à un moment donné, là, Alex et moi, là, de dire, OK, ben, non, là, ça marche pas. Puis, il faut que tu le traites comme un client aussi, là. Fait que, tu sais, ça a beau être la family name, puis tout ça, tu sais, des fois, c'est de s'asseoir, puis de dire, écoutez, on peut pas faire ça.
Mmh. C'était tout tough, ça, justement, vu
ben
qu'il y avait
oui,
un aspect.
Oui, ça a tout le temps été des discussions difficiles. Puis, tu sais, je me souviens, Richard, VP chez Leclerc, puis Charlotte de Richard, mais tu sais, Richard et moi, on avait des discussions, tu sais, puis j'étais comme, Richard, on n'a pas le temps de faire ça, tu sais, je comprends ton besoin. J'aurais dû écouter Richard aujourd'hui avec du temps, parce qu'on l'a fait 3-4 ans plus tard, là, puis ça a changé à business, là, mais tu sais, le point, c'est, tu sais, ça reste quand même difficile à trouver cet entre-deux-là. Tu sais, c'est drôle, là, on parle de raiser, là, puis on parle de cynisme. Je pense qu'avec le temps, on change toutes nos perspectives. Puis moi, j'ai, dans le temps, on parlait du raising tantôt, là, moi, le bootstrap, que je te l'ai dit tantôt, j'étais comme, voyons, pourquoi il lève pas du cash, tu sais. Aujourd'hui, je suis comme, OK, c'est une réalité. Il y a beaucoup d'avantages aussi à être bootstrap. Tu as beaucoup d'inconvénients, plus au début. Mais après ça, tu sais...
Leverage.
Exactement. Là. Fait que,
puis raiser du cash aujourd'hui, c'est plus la même affaire que raiser du cash en 2013, 14, 15.
Moi, je m'appartiens à une business aujourd'hui, je pense pas que je lèverais du cash.
Ah, intéressant.
Non, mais dans le marché actuel.
Oui, oui, exact.
Oh, oui, exact. Non, non, admettons que je m'appartiens à une business de SaaS, ben j'ai appris, fait que je ferais peut-être des choses différentes, mais tu sais, nous, ça nous a beaucoup aidé. On était jeunes, puis il fallait... la fameuse équation de m'éliminer. Là. Il fallait qu'on m'élimine de l'équation.
Ouais,
il
fallait
qu'on engage des devs assez rapidement. Là.
Ouais. Non. Puis, j'ai le goût de parler un peu. C'est con, là, mais tu sais, je faisais de la prep, un peu de recherche, tout ça. Puis, je suis tombé sur un article qui disait genre « Son of Quebec Cookie King starts a startup, whatever, whatever. » Puis, j'étais comme, je me demandais comment est-ce qu'Alex feel à propos de ça. Je trouvais que c'était un peu... Hey, c'est littéralement le journaliste, mettons, il calisse dans l'ombre de ses parents, de sa famille, puis de son nom, puis pas... Fait que, tu sais, c'est-tu de quoi qui gosse? C'est-tu de quoi qui est arrivé souvent, genre?
Ben, tu sais, je pense que c'est important de comprendre. Tu sais, Alex, pour moi, c'est une des personnes les plus humbles que je connaisse.
Okay.
Tu sais, c'est comme... écoute, je dis pas ça parce que c'est mon meilleur ami, là, mais tu sais, c'est comme hyper, hyper humble. Fait que, tu sais, je pense que c'est plus le quand on avait fait justement cet article-là, c'était pour la Series B, je me souviens. Puis c'est plus de voir le title qui sort de nulle part.
Ouais, ouais.
Puis de tout le temps revenir à ça. Puis ça revient un peu à ton fameux genre Unfair Advantage. C'est tout le temps de revenir à quelque chose. Puis t'es comme.
Ça discarte le reste.
Ouais, mais c'est ça. Mais tu sais, t'es comme. Ouais, mais à un moment donné, revenez-en. Là, ça fait comme. Ouais, c'était comme au début. Là, tu sais, je veux dire, à un moment donné, je veux dire. Veux-tu qu'on parle du fait que, genre, on a signé Nestlé sur toute leur usine à travers le monde? Pourquoi tu mets pas ça comme headline à la place? Ouais, tu sais, ouais, c'est, ouais. C'est comme. Tu sais, c'est comme. Il y en a là, d'autres business là, où, que, genre, leur père, c'est des ultra grands entrepreneurs. J'y connais ces business-là. Mais jamais tu vas voir
le tag
ou je sais. Tu sais, c'est comme à un moment donné, t'es comme, tu sais, pourquoi, là, tu sais.
Je pense qu'il y a peut-être un petit peu le syndrome de Québec, là, tu sais, le.
Peut-être.
Le
peut-être.
Petit peuple, puis genre, peut-être. Ceux qui ont de l'argent, puis tout ça. Peut-être. Ça, c'est des choses que moi, j'ai, en tout cas.
Tu sais, puis nous, quand on a décidé de se partir, on était ensemble en business, puis c'était comme, on se part une business. Fait que quand on est allé raiser du cash là, à SF, là, on n'était pas
au Fairmont. Là-bas, ouais, ouais,
on n'était
ouais,
pas
ouais.
au Fairmont sur Nob Hill. Là. On couchait sur le couch d'un ami à Alex à 1h30 de métro, puis c'était la vie. Là, nos pères, ils ont dit, ben les boys, vous décidez, mais nous, faites votre business. Là. Fait que l'aide qu'on a eue, c'est effectivement d'avoir un client, ça coche comme premier client.
Oui.
Mais après ça, c'était comme... moi, j'ai pris mon prêt là, pour partir de la business. Puis,
Ah, il y avait du skin in the game.
Oui, oui, oui.
C'est important de le dire, man, ça. Parce que...
Ceux qui me connaissent, moi, l'important, moi, dans la vie, j'ai appris que les personnes qui me connaissent savent qui je suis, puis ceux qui me jugent parce que c'est leur problème.
Oui, exact. Qu'est-ce que... Moi, je veux parler de lever du cash d'autre parce que on dirait qu'au début de l'aventure, tu mentionnes SF pas mal.
Ouais.
Avez-vous essayé de lever du capital américain dès le départ ou vous avez commencé au Québec, Canada, après? T'sais, c'est quoi la progression, là?
Fait qu'en fait, quand on a levé la première ronde, c'était justement avec Nick à SF. Nick habitait à SF, fait qu'il connaissait, lui, il était quand même assez haut placé chez Google. Il avait eu une couple de business. Fait que lui, tous ses contacts étaient à SF et Chris à Montréal chez Innovia.
OK.
Fait que dans le fond, quand on faisait le tour à SF, on a eu aussi des appels avec Chris en parallèle à Montréal.
OK.
Puis, tu sais, ben.
Fait que la location de la première ronde, c'était autant canadien qu'américain.
Mais dans le fond, c'était comme, c'était comme, peu importe c'est quoi le chèque, là. C'était comme, on veut juste du cash, là. Fait que, tu sais, mais blague à part, puis je me souviens, on était dans l'auto avec Nick puis Alex, puis on parlait avec Chris. Puis, tu sais, dans le fond, Chris était comme, écoutez-moi, les boys, selon moi, Innovia a quand même été un des VC canadiens les plus importants, selon moi, pour assurer l'espèce de comme notoriété, genre autant que des fonds américains. Là.
Ouais.
Fait que, tu sais, quand Chris nous a fait la première offre, c'était on par avec ce qu'on avait eu à SF.
En termes de valo.
Okay. Puis encore, c'est encore meilleur en termes de comme leader, en termes d'autonomie pour Alexandre et moi. Parce qu'à SF, il y avait beaucoup de modèles de comme. Vous êtes cute, les gars, mais comme on va vous montrer comment ça marche. Parce qu'on est.
Tu gères ça, d'autres? Ça me fascine. Parce qu'avec Douda, je l'ai vu, là, la pression investisseur. Puis comment ça. Tu sais, c'est des drôles de dynamiques, des fois, là, sur un board ou sur un.
Ben, dans le fond, un des term sheets qu'on a refusé dans la première round, c'était un term sheet de SF. Puis c'était comme. Alex, tu te tasses. On va mettre quelqu'un en place. On avait même une plus grosse valo, je me souviens. Puis.
Effectivement.
Mais ça, c'était un playbook très SF. Là. Ouais. C'est très différent. Je pense plus qu'aujourd'hui, c'est le même. Là. Mais tu sais, pour nous, c'était important. C'était une business qu'on a fondée, on voulait être les deux qui la run. C'était notre idée. T'sais, make or break, on s'en fout. Fait que quand on a levé la
juste genre, vite, je pense que c'est un testament à votre amitié, votre confiance.
Ouais, oui.
Que quand tu as eu une opportunité de même d'avoir une grosse valo puis de tasser, t'as fait non, fuck it. Ben non, on est in it together.
Exactement. Fait que,
c'est très ouais.
Fait que, tu sais, quand on a levé, c'est ça. Fait que quand on était à SF, je me souviens, Chris, il était comme aller rencontrer Jeff. Il y a un fonds à San Francisco. Moi, je serais d'ordre de faire un premier term sheet avec Jeff à SF. Puis. Moi, Chris à Montréal, okay. On va faire un term sheet ensemble, puis on va partir de là. Puis pour nous, ça faisait du sens. On avait notre route canadien avec Innovia, puis un espèce de.
pied dans
l'aura, le, c'est ça, le pied à terre à San Francisco. Puis à partir de là, ben tu sais, quand tu embarques dans une machine de VC, tu sais, c'est une machine qui va vite, qui amène des gros noms aussi rapidement, tu sais, fait que quand tu veux d'autres rounds, ben eux ils ont leurs contacts, ils vont t'amener là, ils vont t'amener à d'autres places, fait que tu sais,
dirais-tu que à chaque nouvelle round, c'est plus facile ou vu que c'est plus de cash, c'est plus tough? Tu sais, j'y connais rien d'autre.
Moi, ça m'impressionne quand même. Là. Puis, tu sais, je vais dire un gros merci à Jeff et à Chris là-dessus. Là. Tu sais, on a quand même levé un 2,5 millions. Ça, c'est débile. Sur un PowerPoint avec comme Leclerc puis PG Model, ça arrive sud de Québec comme client.
Un gros héroïde PowerPoint.
C'est ça, là. Tu sais, je me souviens, là, c'est quand même... En tout cas, moi, je trouve ça impressionnant. Là. Fait que, tu sais, eux, ils voyaient vraiment, le VC voyait vraiment comme l'idéologie, tu sais. Fait que, mais tu sais, chaque round a ses checkmarks, là.
La dernière, c'était une?
C'était une B.
C'était une B, OK.
Fait que, tu sais, le B, c'est comme, je te donne un gros chèque, il faut que tu opérationnalises, il faut que tu aies des meilleures métriques, tu as prouvé ton marché, tu as prouvé ton produit... Maintenant, il faut juste que tu bâtisses une machine. Puis là, le C, ben c'est juste encore plus. Ouais. Le D, etc. Je pense que c'est les plus difficiles. La plus difficile, selon moi, c'est la A. La A, c'est la plus difficile.
OK. Fait que t'es comme déjà product market fit.
Ouais.
Puis là, c'est comme A, ça peut être quoi? Anywhere between 5 à 25 millions, genre.
Ouais, ça dépend tout le temps aussi de. T'sais. Du marché. Il y a quelque chose aussi que le monde ne faut pas qu'il oublie. Là. Ça dépend aussi tout le temps de c'est quoi ton.
Ta valo précédente?
Oui, mais ton margin aussi. Tu sais, dans le fond, quelque chose que je veux dire par là, c'est qu'admettons, des fois, je vois des... Admettons, un de mes amis, je connais, là, il a levé... sa A, c'était 75 millions.
Jesus Christ!
Mais c'est juste que lui, ça, pour chaque dollar qu'il rentre dans le business, son margin de profit là, là-dessus, c'est peut-être 50%. Ah, fait que ce que je veux dire par nous, fait que c'est pas un vraiment pure SaaS ou lui-même. Fait que tu sais, il faut tout le temps faire attention aux chiffres. Hein. Il faut tout le temps aussi faire attention à combien tu dilues aussi. Tu sais, t'as beau lever 75, mais t'as-tu laissé 35% sur la table? T'as-tu levé. Si tu fais une A à 75 millions, puis t'as laissé 15% sur la table, mais je te lève mon chapeau. T'es un fucking god, là. Mais
non, c'est des bonnes nuances d'autres que le monde oublie parce qu'ils pognent juste le headline, le chiffre, puis le headline, tu sais.
Oh oui, puis c'est là que quand tu rentres dans justement là-dedans, puis tu vois les passes que tu peux te faire, c'est quoi les term sheets que tu as, c'est quoi les là, tu commences à comprendre que chaque chiffre a un meaning en arrière qui vient avec un... Fait que c'est tout le temps, c'est difficile de nuancer aussi qu'est-ce qui est bon pour toi, qu'est-ce qui est bon en tant que shareholder de la business, qu'est-ce qui est bon en tant que board member de la business, qu'est-ce qui est bon en tant que patron aussi, tu sais.
Ouais.
Toutes ces affaires-là, quand tu lèves, c'est difficile à... À gager.
Comment vous. Parce que je veux dire, oui, vous étiez smart, ambitieux, tout ça, driven, mais vous n'aviez jamais levé du cash puis monté des grosses business de même. Fait que comment vous vous équipiez, entouré, c'est où que vous êtes allé chercher conseil, man?
Ouais. De un, il faut quand même que. Chose que beaucoup d'entrepreneurs ne font pas, il faut que tu laisses ton ego de côté. Fait que tu sais, moi, j'ai tout le temps dit, je suis vraiment pas le meilleur développeur, je suis vraiment pas le meilleur, je sais pas moi, gars d'opération engineering. Mais je pense que ma force, mettons, c'est comme l'aspect culturel, l'aspect HR, l'aspect comme, OK, c'est quoi les problèmes, comment qu'on opérationnalise as a whole, tu sais.
Ouais, une vision stratégique.
Fait que tu sais, l'important, c'est de rapidement reconnaître tes faiblesses, selon moi. Puis de laisser aller tes affaires puis d'engager du monde meilleur. Fait que, tu sais, moi, très tôt, j'ai arrêté de coder dans le business. Ouais, j'ai peut-être codé 6-7 mois. Mais après ça, tu sais, Adrien a pris le relais, Marc-Alex, tu sais, tout le monde est embarqué, a pris le relais, puis moi, je touchais plus au code. Je suis pas bon, tu sais.
Mais je te ramène à, mettons, t'as un term sheet pour ta seed round.
Ouais.
Comment tu fais pour savoir si c'est des bons terms ou pas? À qui tu parles? Comment tu
Fait que nous, Nick nous a beaucoup aidé way back à gager ça.
Fait que vous aviez un VC qui connaissait ça.
Juste, on avait un espèce de, appelons-le comme aidant, consultant qui nous aidait à cette première round-là. C'est bon. Mais après ça, tu sais, nous, après ça, on s'est entouré de personnes, mettons, à Québec. Fait que tu sais, moi, j'ai beaucoup parlé, Alex et moi sommes très proches de Jean Lavigueur qui vient prendre sa retraite, là, mais CFO chez Coveo. Fait que tu sais, Jean... C'est le père d'une de mes amies. Fait que, tu sais, Jean nous a beaucoup aidé.
Nice.
Tu sais, je pense que le monde aussi, tu sais, toi-même, tu le fais, là. Il faut pas... faut pas que t'hésites à reach out au monde. Là.
Exact,
100%. Tu sais, dire, ouais, j'ai besoin de conseils. Mm-hmm. Peux-tu m'aider? Tu sais, LP, notre CFO, il a vendu 3 business avant, là, avec des gros VC, là, en Cali. Fait que, tu sais, lui, il connaît aussi... Fait que, tu sais, c'est de t'entourer du monde autant que tes employés, de autant... Des mentors.
Ouais.
Faut pas que tu hésites à reach out à ces personnes-là puis dire j'ai besoin d'aide, peux-tu m'aider?
Puis quand tu le fais d'une place authentique, ou est-ce que tu as du respect pour la personne que tu outreach, puis tu montres maintenant ta passion, ta faim d'apprendre puis de grower quelque chose, le monde aide très souvent. Oui, les entrepreneurs, même, c'est ça. Moi, quand quelqu'un qui m'outreach avec un message comme je viens de dire, je suis comme sure. Soit genre paye-moi un lunch ou genre on va se faire un petit call puis comme. T'as une culture de même, tu sais, mais faut que tu l'embraces, comme tu dis.
L'affaire qui mérite, la seule partie qui mérite dans ce processus-là, souvent, c'est qu'après ça, tu vas... Le monde que t'aides, faut pas qu'ils oublient que t'as été là pour eux. Des fois, ça m'arrive d'aider du monde, puis qu'à un moment donné, genre... Ça, je trouve ça ordinaire, mais tu sais, rendu là. On ira prendre un pichet, puis on va s'en parler.
Exact. Mon psy te dirait genre, oh, il faut que tu puisses aider. Ouais, mon psy, genre, j'étais comme, yo, hey, je pense que je vais donner de l'argent à telle cause, genre, puis tout, j'ai fait un post, whatever. Puis il était comme, non, tu sais, tu vas vraiment être en équilibre le jour où tu pourras donner anonymement, puis pas en parler. En tout cas, il est vraiment...
Hey, OK, ouais. Hey.
Mais il est vraiment nice. C'est comme un peu un... Puis d'autres, c'est con, mais genre, psychologue, là, je leverage pour la business, dude, à mort. Là. Genre, la moitié des fois des sujets qu'on parle, c'est business. Les relations dans ma business, comment moi je gère, mettons, mon ego, mon ambition, mes stress par rapport à ça. Puis, tu sais, la moitié du temps, c'est un coach de business quasiment.
Ben oui, 100%. Puis, je pense que quelque chose que, en tout cas, ça, c'est un autre sujet, là, que le monde oublie, moi, je me souviendrai toujours. Quand on a levé la première round, quelqu'un m'a dit « Ah, mais là, ta vie va être facile, t'es rendu millionnaire. » J'étais comme
« Hey, d'autre.
Hey, tabarouette. » Tu sais, au contraire, je pense que être entrepreneur, quelque chose que le monde oublie de parler, c'est la santé mentale qui vient avec ça, la pression qui vient avec ça. Des fois, t'es lonely, man, puis tu sais, c'est difficile. Fait que t'sais, d'avoir un partner, ça aide excessivement. D'avoir un conjoint-conjointe qui est là, ça aide excessivement. Mais tu sais, des fois, là, Dark Place, là, Israel, ouais. Là, ouais, c'est vraiment, tu sais, ah, ben ouais, c'est facile, vous avez de l'argent. Ben, ou tu sais, ah, ben, non, tu sais, man.
C'est parce que d'autres, plus tu as de l'argent, plus il y a de responsabilités, plus les risques, les enjeux sont élevés. Tu sais, c'est pas, puis c'est sur toi beaucoup, tu sais.
Ouais.
Moi, j'ai beaucoup, moi, un truc que je donne au monde, c'est genre, faites-vous une espèce de founder thérapie ou de la thérapie de quartier, de genre, tu sais, allez prendre une marche, allez parler, allez manger avec genre d'autres founders, man. Puis ces gens-là vont avoir beaucoup d'empathie, man, pour ce que vous avez vécu. Puis juste comme pas se sentir tout seul là-dedans, là, c'est crissement important. Man.
Puis une chose que j'ai appris à mes dépens, selon moi, c'est que ce soit nos pères qui nous disaient des conseils ou d'autres. Mm-hmm. Founders qui disaient de quoi plus âgés, puis tu te dis tout le temps, ouais, mais eux, c'était dans leur temps. Ouais. Tu sais, c'est simple.
Ouais.
Ça va arriver, je me souviens, je m'étais fait dire des affaires, tu vas voir, ça va arriver. Tu vas voir, ben non, ça arrivera pas. T'sais. 95% des chances, c'est que ça va arriver. Fait que, tu sais.
La sagesse de nos aînés.
Et tabarouette. Fait que, tu sais, il faut pas oublier que, tu sais, c'est une histoire qui se répète un peu, elle va changer, tu sais. Mais souvent, quand quelqu'un dit de quoi, là...
Quelqu'un qui est passé par là, maintenant.
Quelqu'un qui est passé par là, t'es mieux de l'écouter, selon moi. Mm. C'est le meilleur conseil que je donnerais.
J'ai le goût de faire une mini-parenthèse COVID, man. Parce ouais. que je trouve que c'est comme quelque chose d'universel. Toutes les business sont passées à travers. Ça a-tu décéléré, accéléré, changé de quoi? Crucial en business, mettons, vous autres?
Ben, en fait, nous... Ça l'a aidé le secteur manufacturier, surtout dans le domaine qu'on était de devoir... parce que nous, dans le fond, les usines ont continué de rouler pendant le COVID.
Ouais, c'était de la bouffe.
C'est de la bouffe, là, c'est ça. Ben, peu importe. Là,
la, autant même pas juste
a,
la bouffe.
C'est, ouais, ça, ouais. C'est ça, mais tout là, le secteur de la construction boomait. Fait que, on avait des clients dans le plancher. Fait que tout ça. Fait que nous, les usines continuent à rouler. La demande pour d'avoir de quoi de virtuel slash connected worker augmentait. Fait que nous, ça l'a aidé à accélérer les cycles de vente, à accélérer aussi beaucoup la connaissance du marché. Parce que du jour au lendemain, comme tout le monde était comme, OK, j'ai besoin de quoi pour communiquer? Parce que là, le directeur d'usine ne peut pas venir comme ça sur le plancher juste pour le fun maintenant. T'sais. Fait qu'il y a eu tout cet aspect-là de connaissance. Puis justement, là, nous, c'était beaucoup, on faisait des meetings là, on-site là, pour vendre. Là. Alex puis moi, là, pendant un an, là, on voyageait non-stop. Puis là, aujourd'hui, du jour au lendemain, tout est devenu remote. Ça nous a beaucoup aidé là-dessus.
C'est vrai, ouais.
La partie où ça a été plus difficile, c'était que vu qu'il y avait beaucoup d'incertitudes économiques, les clients, des fois, même s'ils étaient en connaissance de cause, en connaissance du marché, en connaissance du produit, c'était plus au côté budgétaire que c'est difficile. Fait que, tu sais, ben là, pas cette année, on va attendre de voir où ça s'en va. T'sais. Fait que ça, c'était la partie un peu plus difficile là, par rapport à ça, mais pour les employés, pour tout le monde, nous, ça a été assez positif, je te dirais.
Au niveau, moi, ce que je peux te dire, c'est que de l'externe, le monde a de l'air à aimer ça, travailler chez Poca. Puis la joke que je te faisais offline, c'est que quand il fallait que je double mon équipe, j'ai contacté quelques personnes de Poca. Puis tout le monde était comme, non, je suis bien, j'ai des beaux défis, whatever, tu sais. Puis ça, c'est une fleur qu'on lance à ta team, à ta culture, au monde RH, ils vont être contents, whatever. Mais pourquoi le monde aime ça, travailler là, man?
Je pense que c'est de toujours donner de quoi que le monde sont contents de faire avec des nouveaux défis. Une startup a plusieurs cycles de vie, là, plusieurs étapes à franchir. C'est d'essayer de faire en sorte que chaque personne, au fil du temps, ait des nouveaux défis à relever, ait eux-mêmes se renouvellent. T'sais. Fait que ça, c'est très important pour Alex et moi de tout le temps amener comme le monde le plus proche possible par rapport à ces défis-là. T'sais. Les défis sont de plus en plus complexes aussi. Là, on a des plus en plus gros clients. Fait que, c'est d'impliquer encore le monde. Tu demanderas à Greg les meetings qui est avec les clients, c'est encore plus difficile. Fait que, c'est d'essayer de tout le temps garder le monde motivé avec le travail.
Ouais.
L'autre aspect culturel, plus comme humain, Alex et moi, on a parti une business aussi pour avoir du fun. Alex, il avait sa job chez Biscuit. Moi, j'étais Redman, let's go. Fait que, tu sais, quand même une partie de nous qui a fait OK, on veut devenir nos boss, mais il y a une partie qui va avoir du fun. Que ce soit les événements où tout on y prend cœur, on essaie d'avoir le plus d'ambiance possible. Très early aussi, on parlait avec Albert de chez Mirego, la culture chez Mirego est très importante. Fait que, tu sais, ça a tout le temps été un sujet qui était proche de nous, là, de faire en sorte que le monde est heureux. T'sais, on fait encore des. Ça s'appelle les Meet the Founders. Les nouveaux employés, quand ils arrivent, pré-COVID, on s'assoyait tout le temps avec eux. Là, maintenant que le COVID, moi, je suis rendu à Montréal, Alex est à Québec. On le fait remote ou on le fait sur place quand on est là, mais on s'assoit avec les employés puis on dit, écoutez, c'est un rappel pour dire que il n'y a pas de bullshit là, ici. Là, tu veux me parler, tu m'envoies un Slack, tu m'arrêtes, tu me parles, on se pose des questions, tu as des concerns, etc. Fait que, t'sais, c'est très important que le monde comprenne qu'à la fin de la journée, si l'employé n'est pas heureux, la business ne va pas avancer. Fait que, il faut que le monde se retrouve là-dedans et qu'il s'épanouisse. Là,
C'est tough l'embauche ces temps-ci?
En
fait, embauchez-vous tout court?
On embauche là, présentement. On a 2-3 postes ouverts.
On les droppera dans les notes.
Ça a changé beaucoup, là, je te dirais. Il y a comme eu un retour du balancier, puis je me gêne pas à le dire à mon monde d'engineering. Avant, c'était beaucoup. C'était très difficile, mettons, à embaucher là, à cause de la demande, tout ça. Là, il y a eu un retour excessivement agressif là, du balancier, là, que ce soit les offres chez Shopify, Facebook,
Namit. Doudon l'a eu, ouais.
Tu sais, fait que là, il y a beaucoup plus. De
pool, d'équilibre
mettons, exactement, entre employeur et employé. Fait que je pense que c'est plus revenu à, selon moi, quelque chose que je trouve de normal.
Plus sain aussi.
Ouais, plus sain.
Je voyais des plays là, de genre, tu sais, la notion d'amener plusieurs acheteurs sur la table, mais appliquer ça à genre plusieurs employeurs sur la table, puis faire du piggyback, de genre, OK, ben lui, ils m'ont offert ça, eux autres m'ont offert ça, eux autres m'ont offert ça, puis faire une espèce de course à la, au plus gros salaire, là. Oh, man, ça,
moi... Ben moi, ça m'est arrivé souvent. Ça nous est arrivé souvent de signer l'offre, que la personne signe l'offre.
C'est l'école sans, ça.
Puis après ça, elle nous dit, oh non, en fin de compte...
Contre-offre.
Contre-offre de mon père, ça, je la prends pas. Puis là, t'es comme... OK, mais ça fait...
T'as signé.
Puis là, là, tu poses autant la question, est-ce qu'il m'a juste pris pour se leverager un peu?
Exact.
Exact.
Ouais, j'ai vécu ça. Ouais. C'est tough, man. C'est mais très... ouais, tant mieux si c'est plus équilibré, style, tu sais, à un moment donné.
Ouais, ouais, à un moment donné.
J'ai le goût qu'on close un peu sur genre... c'est comme Microsoft, la culture dev, la culture d'AI. Je trouve qu'ils font des gros moves. Tu sais, t'as fait un passage, toi, chez Microsoft. Fait que j'imagine que tu suis d'un certain œil, mettons, ce qui se passe avec ça. Comment tu penses à Microsoft, c'est ensuite?
Tu sais, moi, j'étais chez Microsoft dans le temps, en 2011, je me souviens, puis j'étais le building, juste pour te montrer, là, j'étais le building, c'était, dans le fond, ça a donné que mon building de l'équipe que j'étais, c'était à côté, c'était à comme deux, trois old buildings de Balmer, puis tout ça, puis la rumeur voulait que, quand t'es dans la bâtisse de Balmer, tu prenais la cage d'escalier pour monter d'étage, t'arrivais à un étage, puis il y avait comme des bodyguards pour rentrer dans la cage d'escalier de secours, là, whatever. Là. Puis là,
okay.
Genre, la joke, c'était, t'arrivais, puis tu disais, ah, ben, je cherchais les toilettes, puis le gars, il disait tout le temps, non, t'es pas sur le bon étage. Fait que, puis je me souviens, je voyais les. Tu sais, il y a comme un système de caste, là, chez Microsoft. Là.
Okay.
Ça a comme sorti récemment, là, ça a genre vraiment créé une polémique, là, parce que dans
le fond, je l'ai pas pogné, c'est moi.
Ben, ça a sorti il y a comme 5 ans, là. Fait que, tu sais, c'était comme vraiment un niveau de comme. T'étais vraiment raté comme un chiffre. Là. Fait que, tu sais, mettons, comme pratiquement si t'étais à genre wow, là. Fait que, tu sais, mettons, t'es level 20, fait que level 20, puis là, ça montait là, à genre du 100, 120,
arrête
etc.
Donc, man. Wow.
Puis dans le fond, c'était très politique. Okay. Ils ont eu beaucoup de problèmes, justement, quand Balmer est sorti, tout ça. Fait que, c'était vraiment là, moi, je voyais du monde qui travaillait, il avait l'air de rien faire, là. Puis, tu sais, ça gagnait des salaires de malade, là.
Ouais, ouais.
Fait que je pense qu'il y avait beaucoup, beaucoup de gras, selon moi.
Ouais.
T'sais, selon moi, une culture beaucoup plus old school avec Balmer, tout ça. Puis j'ai de la misère à prononcer son nom au nouveau CEO, là, aussi. Fait que,
Satya Nadella aussi.
Ouais, en tout cas, quand il est rentré, je pense qu'il a juste comme fait clean slate.
Ouais.
Puis moi, pour vrai, je vais leur donner, là, c'est impressionnant comment ils ont été capables de turn ça around. Je serais curieux d'aller sur le campus aujourd'hui, de voir à quel point c'est différent.
Mais moi, dude, là, les moves qui se sont succédés de genre acheter... ben en fait, ils ont sorti une version de .NET vraiment, vraiment plus au goût du jour. .NET Core, puis après ça, c'est devenu autre chose. Après ça, acheter GitHub. Après ça, investir dans OpenAI, Copilot. Man, tu sais, des developer-first moves là, très hot. Là.
Ouais, non, je suis 100% d'accord. Puis ça donne... Je pense que ça redonne confiance un peu...
Ouais.
Dans les en tant que nous, jeunes mettons, développeurs qui étaient anti-Microsoft. Là,
oui, ben c'est parce qu'en 2011, c'était ça. Là. Nous, alors, quand on disait qu'on codait en .NET, C-Sharp, puis qu'on utilisait Azure, le monde était comme « on veut pas travailler chez vous. » Genre, Astaire, c'est quand même fucking cool, man.
Oui, non, non. Puis, tu sais, mettons, Azure, aujourd'hui, moi, je suis proud de AWS. On est très contents. C'est vraiment...
Okay.
Mais, tu sais... C'est pas vrai que tu peux pas négliger que le cloud Azure n'est plus ce que c'était il y a 5 ans. Là, c'est vraiment... tu vois, je pense que autant que toi puis moi, on a dû utiliser des SaaS anti-Microsoft, ben selon moi, sont en train de dépérir. On en parlait avant de rentrer. Là, que ce soit Slack qui a vendu à Salesforce. Moi, je l'oublie tout le temps, ça. Là.
Ouais,
c'est vrai. T'sais, tu le vois, là, c'est plus ce que c'était. Il n'y a plus de... C'est un retour aussi du balancier. Je pense que les grosses corps, malheureusement, peut-être aussi, là, reprennent la...
Ouais.
Rachètent tout ce qui était cool, puis là, ils vont le remettre. Puis là, à un moment donné...
Il va y avoir une autre disruption.
À un moment donné, il va y avoir une autre disruption. Ça va être quoi? Je sais pas,
Ouais.
Fait que c'est des cycles intéressants. La seule chose, en tant que tout le monde qui nous écoute, qui t'écoute, puis qui sont là-dedans, tu sais, il faut pas que tu fasses abstraction de ça, faut pas que tu fasses...
Tell me more.
L'autruche là-dedans, puis dire faut que tu sois conscient des cycles, selon moi.
Mm-hmm.
Faut que tu t'adaptes au cycle, puis il faut que tu dises garde, c'est comme ça.
Ouais, mais c'est un équilibre aussi, dude, avec oui, tu t'adaptes à certains cycles, à certains outils, mais quand même, faut que tu utilises, mettons, des techs que tu connais puis qui marchent. Surtout quand tu te lances. Là, faut pas juste que tu te mappes à des cycles de hype pour décider de ton infra, de ta tech stack, whatever.
100%.
T'sais, vous autres, vous avez probablement commencé à coder dans le coup que tu connaissais en crisp parce que tu étais le main coder au début.
Exact.
C'est ça, ça. Mais d'ailleurs, vous avez commencé à coder en quoi, ça m'intéresse?
Dans le fond, à l'école, on faisait du Python. Fait que j'avais fait tout le back-end en Python, ouais. Après ça, cloud, et moi dans le temps, là, c'était AWS contre Rackspace.
Je m'en rappelle même pas.
Feu Rackspace, ça existe encore, je pense. Mais écoute, je me souviens, j'avais fait OK, let's go, on prend AWS. Fait que tu sais, après ça, web, c'était du bon vieux jQuery.
Ouais, on est passé par là, nous autres aussi.
Tout le monde a dû passer par là. Puis, en fait, la app iOS, par contre, ça, je l'ai appris. C'était pure Objective-C. Là, aujourd'hui, c'est en Swift. Là.
Ouais.
Mais ça, je l'avais appris on the fly.
Très hot.
Ouais, ça a été quelque
chose. Puis, parlant de cycle, puis un peu de s'adapter, à quel point l'AI, ça prend de la place, mettons, dans vos discussions au niveau managérial ou même, y a-t-il des trucs bottom-up, les employés n'en parlent-tu?
Ouais, les employés en parlent, nos clients en parlent.
tout le monde en parle.
Contrairement, selon moi, au AR-VR.
Excellent point de comparaison, dude.
Ouais. Contrairement au AR-VR, ça va rester, selon moi. Et il y a beaucoup plus de win, que ce soit des quick ou des long win à faire avec le AI, selon moi, que le AR-VR. Parenthèse, il y a 5 ans, je me souviens, dans les RFP, dans l'édition client, c'était comme, c'est quoi votre roadmap to AR-VR? C'est quoi votre solution d'AR-VR? Hey, j'ai acheté un HoloLens, là. Il est dans la bibliothèque chez Poca, puis c'est genre un 5000 qui dort là, puis qui a rien à faire. Musée, là. C'est ça, c'est un musée. Puis tu sais, tu sais, j'ai rien, là. Tu sais, je veux dire, le AR-VR, j'ai rien contre ça. Il y a des besoins spécifiques à ça. Il y a un marché ciblé pour ça. J'enlève rien à ça. Mais de là à dire, nous, c'était comme vraiment, c'était le besoin.
Pression, comme.
C'était la pression pour un mass market total. Tu sais, Alex et moi, on disait à nos clients, écoutez, vous n'avez même pas de iPad. Fait que commençons une étape à la fois et le marché va maturer et va arriver éventuellement à une solution qui est beaucoup plus facile, consumer ready, etc. Ouais. Fait que moi, j'attends encore la fameuse l'équivalent d'Apple, là, parce que c'est supposé être. Puis tu vois, ils ne font que le repousser.
Ouais. Ouais,
parce que moi, en usine, comme je te dis, il y a un besoin pour certains secteurs niche du AR-VR, mais nous, dans le day-to-day, l'opérateur, quand il court parce que la machine est en train de scraper, puis il va arriver à sa machine. Puis il va prendre son sel ou il va prendre. Tu sais, il n'y a pas le temps de. OK, je vais prendre mon headset, je vais commencer à taper dans le vide pour me loguer in, puis je vais rager parce que. Tu sais.
Peut-être un moment donné.
À un moment donné, mais on n'est pas là. Mm. Tandis que l'AI, selon moi.
La loupe de feedback est vite.
C'est ça, tu sais, est vite.
C'est facile.
C'est facile. Ouais. Fait que, tu sais, là, on commence à voir, OK, ça va être quoi le prochain play à faire? Tu sais. Okay. Contrairement au AR-VR, où j'étais comme, je pelletais ça en avant.
Comme
j'étais comme, éventuellement, ben, il y en a qui ont pris des gros gambles avec le AR-VR.
Ah, okay. Okay.
Ça a comme semi-marché. Mais tu sais, okay. Ça, je l'ai vraiment appris, puis je l'ai mis en avant. Puis je dis, il y avait des clients que c'était des fois, c'était go, no go, AR-VR. Puis j'étais comme, mais prenez-nous pas d'abord.
Moi, je. Good, fait que tu stick, tu étais.
Je skais là-dessus. Tandis que les AI, tu sais, là, c'est plus la question, c'est quoi votre stratégie? Puis là, contrairement à AR-VR, je suis comme, OK, ouais, il faut qu'on s'assoie puis qu'on y pense vraiment. Tu sais, c'est quand même difficile un peu à savoir comment ça va s'imbriquer. Ça va-tu être du recommendation? Ça va-tu être... tu sais, reste-t-il que... La personne utilise un vidéo pour se former puis tout. Fait que tu sais, mais ça, pour moi, c'est là pour rester, c'est sûr et certain. Puis à l'interne, on l'utilise beaucoup pour s'aider nous-mêmes.
Ben, écoute, ça écho, ce que tu dis, ça écho beaucoup ce qu'on a parlé avec Isaac Sowen sur le podcast sur l'AI et les SaaS verticaux. Fait que le monde, ils vont checker ça. Dude, je veux juste te dire, on est over une heure. Je suis trop stoked d'avoir eu
Si c'était super le fun, écoute, easy going, bonne question, très facile à parler. Selon moi, c'est ça le plus important.
Cool, puis là, t'es à Montréal?
Ouais, j'habite à Montréal, fait mais...
Fait que prochain event, ça se passe, qu'on fait à Montréal, je vais t'inviter, puis ça vraiment serait dope plaisir de t'en voir en vrai. Poca.io.
I-O.
Ouais. Point com, il est cher.
Alors, c'est une autre histoire, c'est on s'en parle.
Fait que là, je vais mettre tous les links pour Poca dans les show notes. Take care, mon vieux, puis cheers.
Merci beaucoup, c'est bien gentil. You sold your soul. C'est gratis pour le downloader. Trop de hits, ça même plus ce qu'elle pédance. This is it, the download.